Yaakov est sur son chemin de retour. Et en fait, il apprend que Ésaü est dans les parages. Et donc, Vayishlach Yaakov Malachim Yaakov envoie des Malachim, donc. Bon, vous savez bien, il y a une marloquette pour savoir s'il a envoyé des émissaires ou des anges. Rashi penche pour les anges. Il penche pour les anges parce que la dernière chose dont on a parlé la semaine dernière, c'est des anges, les fameux Mahanaïm, le camp des anges qui était venu pour accompagner Yaakov. Donc, a priori, ce sont ces Malachim, donc de ces Malachim-là qu'il a envoyés chez Ésaü. Et c'est marqué donc qu'il a envoyé des gens chez Ésaü. Alors en fait, a priori, il y a une marloquette là-dessus, mais on va en parler. Le Ramban, par exemple, dit ici, Par tafsu chachamim al zeh, les chachamim ont déjà repris, critiqué Yaakov pour cette démarche. Et dans Bereshit Rabba, on dit Marzik be Osnei Kelev. C'est les Chachamim qui pensent comme ça, ils disent, en fait, Yaakov est sur sa trajectoire, et Esav, il n'est pas loin, mais il n'est pas du tout sur une trajectoire qui va croiser celle de Yaakov. Il ne s'occupe pas de Yaakov. C'est Yaakov qui va le chercher en quelque sorte. Chazal dit, tu vas tirer l'oreille du chien, puis après tu t'énerves. Ensuite, tu t'effraies parce qu'il t'aboie dessus ou parce qu'il va te mordre. Et ça, il aurait passé son chemin. Donc c'est vu comme une critique ici. Chazal pour une critique de Yaakov, il n'avait pas du tout besoin de prendre contact avec Ésaü. Bon, c'est un peu compliqué parce que le Ramban lui-même, dans son introduction à la parasha, à cette parasha de Vayishlach, le Ramban lui-même dit que cette parasha-là, elle vient nous enseigner comment on se conduit en galoute avec des goïms. Et donc, quelle est la ta'ana sur Yaakov? Si Yaakov il passe son chemin, et ça veut dire qu'avec les goïms, il faut passer son chemin, on n'a pas le choix. Quand on est en galoute, on est bien obligé d'avoir du contact avec les goïms. Alors, comment il dit, pourquoi on reproche à Yaakov? La paracha, elle est venue pour ça. Alors, il faut expliquer en disant comme ça que le galout de Mitzrayim, l'exil en Égypte, ça vient sur le fait, ça vient sur les descendants d'Abraham, parce que Abraham a mobilisé les gens qui étaient chez lui, qui étudiaient la Torah, et il les a mobilisés pour aller faire la guerre contre les quatre rois. C'était en fait, il allait faire la guerre pas pour ses beaux yeux, mais il allait faire la guerre pour essayer pour délivrer Lot. D'accord? Donc c'est, mais là, il aurait dû y aller tout seul. Oui, il faut dire qu'il aurait dû faire la guerre tout seul, c'est ça que ça veut dire. Alors ça, Rav Olmi, il appelle ça une ta'ana de la Midat Hadin. La Midat Hadin, c'est une accusation qui prend prétexte de tout ce qu'on peut interpréter un peu négativement. La Midat Hadin, elle tranche là-dedans. Elle utilise ça. Avraham Avinu, effectivement, il aurait dû compter sur construire le clan d'Israël sur un niveau plus élevé. Je vais pas faire je dois faire la guerre, ben j'y vais tout seul. De toute manière, la guerre que Abraham a faite contre les rois là, c'était une roi qui est une guerre qui est complètement miraculeuse. Il leur a jeté de la poussière et de la paille. D'accord? Et c'est tombé sur eux. Ils ont reçu ça comme des bombes, quoi. Et les bombes qu'ils lui ont envoyées, c'est tombé sur lui comme de la poussière et de la paille. Donc, ça, mais pour ça, on n'a pas besoin d'être 25, hein, ou même 3000, ou 600, enfin, ou 318, comme ils étaient. Et là aussi, Jacob, en vérité, il a choisi une voie naturelle, en quelque sorte. La Midatadine, elle dit, tu aurais dû poser le clan Israël à un niveau plus élevé. On n'a rien à voir avec avec les voies naturelles, avec le, on est dans un autre monde. Nous sommes un autre monde. Nous sommes dans un autre monde. Hazal disent, pour qu'on comprenne bien, que si Akadosh Baruch Hu était venu demander des comptes, en quelque sorte, à Abraham, Israël et Jacob, d'après cette Midatadine, jamais ils auraient tenu le compte. Ils sont très très grands, Abraham, Israël et Jacob, mais personne ne tient devant la Midatadine. La Midatadine, elle laisse rien passer. La plus petite imperfection est tout de suite considérée comme énorme. Et la Midatadine, elle accuse, en quelque sorte, les avots, en l'occurrence ici, de ne pas avoir installé le clan Israël à un niveau plus élevé, donc qui a rien à voir avec la nature, avec les lois de la nature. Ça, ce serait donc c'est pas contradictoire, c'est-à-dire effectivement. De cette paracha, merci. De cette paracha, on va apprendre effectivement comment on doit se conduire, parce que les avots ont choisi de se conduire de cette manière-là. À la limite, ils ont choisi un galout. C'est comme s'ils avaient construit ce type de galout-là. Moi, je dis, Ravolvé, il disait qu'on aurait pu imaginer le galout de Mitzrayim. C'est un juif américain qui est au Caire, et il a l'habitude de descendre dans un Hilton. N'y a pas de place au Hilton, il est dans Marriott. Et le problème qu'il a là-bas, c'est que la salle de bain, elle est à droite, et là, la salle de bain est à gauche. Donc, il est en galoute parce qu'il n'a pas du tout l'habitude d'avoir une salle de bain à gauche. Il dit, c'est le galoute. On aurait pu étudier le galoute de cette manière-là. Seulement, les avots, ils ont choisi autrement. Jacob, il a choisi autrement. Ça, c'est une première chose. Alors, il faut savoir que il y a une autre opinion. Il y a un autre Midrash qui dit que, vous vous souvenez probablement, Laban avait poursuivi Yaakov. Quand Yaakov est parti, il est parti en cachette, et Laban a poursuivi Yaakov et il l'a rattrapé. Et quand il le rattrape, il lui dit, Yeshlel, il a dit, j'ai la possibilité de te faire du mal. Je peux te faire beaucoup de mal. Mais ton Dieu est apparu cette nuit et il m'a interdit. Alors, ça veut dire, tu dis que tu as la possibilité, et après tu dis que je peux pas parce que ton Dieu me l'interdit. Donc, Laban, il avait l'intention de faire échouer complètement Yaakov, le cas échéant, le tuer tout lui reprendre. Comme il dit, les filles, c'est les miennes, les enfants sont les miens, les biens sont les miens. Mais comme il n'a pas pu, parce qu'Hachem le lui a interdit, alors il a envoyé un message à Essav. Il lui a dit, voilà, je te donne les coordonnées de la trajectoire de Yaakov. Attaque-le, tue-le. Moi, je ne pouvais pas le faire parce que, bon, mon Dieu me l'a interdit, mais toi, il ne t'a pas interdit. Tue-le. Et donc là, du coup, c'est Esav qui vient vraiment dans sa direction. Alors du coup, Yaakov réagit à cette information-là. Bon, c'est pas très clair parce que dans le texte, ce qui est dit, c'est qu'il a envoyé les Malachim. Les Malachim, avec un message, on va y revenir. Les Malachim reviennent et disent, on a rencontré Esav. Il est en chemin, il a une troupe, il a des soldats, il a 400 soldats. Et là, il marche sur toi, quoi. Il marche vers toi. Il est pour faire la guerre, a priori. Et quand Yaakov entend cela, alors là, de nouveau, le passage dit que quand il entend ça, il a très très peur. Et dans le passouk, c'est marqué va yira Yaakov meod, va yetserlo. Yaakov a eu très peur et il a été angoissé. Et donc il a pris des mesures, il a partagé ses gens en deux camps, etc. Et donc ça fait double emploi. Va yira Yaakov meod, s'il a eu très peur, ben, il est angoissé. Il n'a pas besoin d'ajouter qu'il a été angoissé. Alors Rashi explique qu'en vérité, il y a deux choses. Il a eu très peur d'être tué. Il était aussi angoissé de devoir tuer. En fait, Yaakov et Esav sont aussi forts l'un que l'autre. On croit toujours que Yaakov, c'est un doux rêveur qui n'est sûrement pas capable de se battre. Mais on a bien vu que quand il est arrivé au puits, là-bas, il a roulé la pierre à lui tout seul. Cette pierre, donc, les bergers disaient qu'il faut qu'on soit tous là pour pouvoir la rouler. Donc, il est aussi très fort. Donc, on ne sait pas du tout s'il y a une guerre, s'ils en viennent effectivement à se battre l'un contre l'autre. L'un le dit, qui va gagner? On ne sait pas. Et donc le passouk nous dit que Yaakov, il a autant peur d'être tué que de tuer. Mais la question qu'on peut poser, c'est pourquoi il aurait peur de tuer. Il est agressé par quelqu'un qui veut le tuer. Il y a une halakha qui dit, si quelqu'un vient pour te tuer, Hachem, le Horbo, lève-toi et tue-le. On n'est pas des pacifistes, on ne va pas se laisser massacrer, pas du tout. Donc, pourquoi il a peur? Pourquoi il a peur de devoir tuer? Alors là, on est obligé de. Enfin, il faut savoir la chose suivante. Quand Yaakov a rêvé, l'histoire de l'échelle et les anges qui montent, qui descendent, etc. Après cela, Yaakov a pris une décision. Il s'est engagé vis-à-vis d'Hachem et il a dit. Après, vous vous souvenez là. Il avait pris la pierre qui était la résultante des pierres qui ont été soudées par Hachem. Il l'a dressée, il en a fait une matseva, c'est-à-dire une stèle, sur laquelle il a versé de l'huile. C'était ça la avoda. Et il a dit à Hachem, si tu fais tout ce que tu m'as promis dans mon rêve, et si je reviens effectivement, me shalom auprès de mon père, alors je ferai de cette pierre-là un Beth Amikdash. Et donc, on dit que cette pierre est devenue ce qu'on appelle Even Shetiya, c'est-à-dire la pierre qui sert de fondement pour le Beth Amikdash. C'est la pierre sur laquelle était posée au premier Beth Amikdash. On avait le Aaron HaKodesh, il était posé sur cette pierre-là. C'est sur cette pierre qui était moitié enfoncée dans la terre. Et sur laquelle était le Aaron, c'est Ben Shetia. Donc il a dit, je vais construirai le Beth Amikdash avec à partir de cette pierre-là, si Hachem me fait tout ce qu'il m'a proposé. Alors maintenant, vous savez bien que, au sujet de la construction du Beth Mikdash, celui qui en a eu l'idée, c'est David Ameler. Et Hachem a dit à David, toi, tu ne construiras pas le Beth Mikdash. Pourquoi? Parce que tu as les mains pleines de sang. Alors, à part, il y a eu une racha, mais le pshat, c'est tu as les mains pleines de sang parce que tu as fait la guerre et tu as tué les gens. Le problème, c'est en fait, les guerres que David a faites, elles étaient toutes permises par Hachem, et même certaines étaient ordonnées, d'autres étaient simplement permises par Hachem. Donc, d'avoir du sang qui a coulé, qu'on a vu verser dans des guerres qu'Hachem avait ordonnées, ou avait en tout cas accepté, est-ce que c'est invalidant, quelque part? Ça, mais ça a vraiment disqualifié David. Hachem a dit, c'est pas toi. Ce sera ton fils, mais pas toi. Pourquoi? Parce que le verser du sang, cette violence qu'il y a dans le verser du sang, c'est quelque chose qui ne peut pas être, disons, mêlé d'une quelconque manière avec la construction du Beth Amikdash. Où vous avez tout de suite après la paracha, tout de suite après la Seret Adibrot, il y a les trois mitzvot que Hachem donne au Israël, et l'une d'entre elles, c'est de construisez un misbéar de pierre. Ces pierres, elles ne peuvent pas être taillées. Parce que si les pierres étaient taillées, alors pour les tailler, il faudrait utiliser du métal, du fer. Et le fer, c'est enfin, un couteau, donc c'est réminiscent de l'épée, etc. Donc de la violence de la mort. Quoi. Et donc Hachem dit, hein, exclu. Pourtant, c'est vraiment tout à fait pacifique. On va utiliser ça pour tailler des pierres. Même si c'est réminiscent, si ça fait penser à la violence, au meurtre, etc., c'est pas possible. Vous n'avez pas le droit de construire un misbéar pareil. Le pourquoi de la chose, on peut penser que sur le misbéar, ce qu'on amène, c'est de la viande. Cette viande-là, la viande qu'on met sur le misbéar, c'est la résultante de la shrita, on a égorgé une bête. Donc on a fait une certaine violence. La viande en question, c'est vrai qu'elle est, elle est chargée de violence. Elle n'existe que grâce à une violence. Donc ça veut dire que quand on fait des korbanotes, il y a de la violence. Et on a l'impression que s'il y a aussi de la violence dans la construction du Beth Amikdash et plus encore dans la construction de l'autel, du misbéar, c'est comme s'il y avait une espèce de phénomène de résonance entre les deux violences. Et la résonance, ça veut dire que c'est un infini de violence, quoi. La résonance, c'est un phénomène, c'est la façon de faire de l'infini avec du fini, quoi. Alors, c'est ça, une résonance. Et donc, quelque part, on peut penser que Hachem ne veut pas de ça, quoi. Parce que, malgré tout ce qu'on peut dire, que bon, c'est une élévation pour la bête d'arriver sur Milberg, mais c'est quand même lié à de la violence. De la même qu'on dit que la violence qu'il y a dans le fait de tailler des pierres avec, en tout cas, si on n'a pas le chamir là qui permet de tailler les pierres, mais qu'on est obligé d'utiliser du métal, bon, donc ça fait penser à la violence, au meurtre, tuer, une épée, etc. Donc, le problème, c'est que Yaakov, il a peur de devoir tuer. Parce que s'il tue, il est disqualifié pour construire le Beth Amikdash. Et donc tout son, quand il a peur, pourquoi il a tellement peur de tuer? Parce qu'il ne pourra pas faire ce qu'il s'est engagé à faire. S'il doit tuer les âmes. C'est pas tuer, ce sera du point de vue, il a le droit de le faire, parce que c'est si Esav vient pour le tuer, il doit le tuer. Il y a, on verra ça après, mais vous savez que quand Dina a été violée, alors Shimon et Lévi sont allés, ils ont massacré Shrem. Ils ont tué Shrem qu'il avait violé, mais ils ont massacré toute la ville. Et ils ont pris tout le butin, ils ont tout. Ils ont tué tout le monde et pris le butin. Et quand ils sont revenus chez Yaakov, Yaakov leur a dit, mais vous êtes complètement cinglés. On est entouré de tous ces peuples là, ils vont tomber dessus. Et ils vont, on va être détruits. Ils vont tous s'allier, ils vont nous tomber dessus. Alors eux, ils ont répondu, les deux, ils ont répondu, est-ce qu'on doit laisser faire en sorte qu'on traite notre sœur comme une prostituée? Jacob, il n'a pas aimé ça, et d'ailleurs, il n'a vraiment pas aimé ça, puisque au moment de donner les brachot à Lévi et à Shimon, il a dit, je veux rien avoir à faire avec eux. Donc, même à la fin de sa vie, après tout, il considère que fallait pas le faire, quoi. Mais enfin, ils l'ont fait. Donc, et seulement dans les psukim qui suivent, on voit qu'il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de représailles parce que ils ont été, les autres peuples ont été pétrifiés. Certains midrashim disent qu'ils se sont dit, quoi, deux ont tué toute une ville. Il y a 11 frères là. On est fichus, ils vont tuer tout le monde. Donc ils ont dit, on n'y va pas, on ne fait pas. Il faut pas le faire, il faut pas faire la guerre, c'est trop risqué pour nous. Et donc ils n'ont pas bougé. Mais il existe un midrash qui dit qu'ils ont fait la guerre. Midrash qui dit ils l'ont fait la guerre et Yaakov a dû tuer. Donc ils s'en sont sortis, les Israël, mais Yaakov a tué. Et donc il était complètement détruit parce que bon, c'était fichu, quoi. Il n'allait plus pouvoir construire le Beth Amikdash. Et Hachem lui a dit, mais pas de souci, celui qui a tué, c'est Yaakov. J'ai changé ton nom, tu t'appelles Israël. Israël, c'est Israël qui construira. Et Israël n'a rien fait de mal. Israël n'a pas tué. Donc, par ce subterfuge-là, Yaakov a retrouvé en quelque sorte le moral. D'accord? Il va quand même pouvoir construire le Beth Amikdash. Donc, il faut voir que cette histoire de la construction du Beth Amikdash, elle a l'air d'être, certains disent, c'est un leitmotiv de cette paracha. Tout tourne autour du problème du Beth Amikdash. En tout cas, Yaakov a envoyé des messagers à Esav et il leur a dit, voilà comment vous allez vous présenter, vous êtes mes envoyés, et vous allez dire à Esav, vous dites, Ko amar avdecha Yaakov. Ainsi parle ton serviteur Yaakov. Le trait, c'est. Et ensuite, il explique, Limtsochem be'ene. Adonis, trouvez grâce aux yeux de mon Seigneur. Il va lui donner, Jacob va donner à Esav du mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, et il va se prosterner 7 fois devant nous. Les Chachamim dans le Midrash, ils se déchaînent contre Jacob. Qu'est-ce qu'il avait besoin de lui donner le pouvoir, c'est de dominer, quoi. Mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, et que je te prosterne, je me prosterne devant toi. Ça va pas.
C'est pas d'accord avec lui.
Alors, on
Sauf vous.
peut dire que c'est tout ça, c'est fait pour que la guerre n'ait pas lieu. Parce que pour que la guerre n'ait pas lieu, effectivement, il ne voulait pas la guerre, Yaakov. Mais pour cela, c'est pour ça que par la suite, il va envoyer des tas de cadeaux à Essa pour l'apaiser. Quelqu'un qui vous envoie des cadeaux, c'est ensuite difficile de l'agresser, quoi. Mais bon, il y en a qui sont capables de le faire quand même. Et donc, Yaakov s'est préparé à la rencontre d'Essa de trois manières, comme tout le monde sait. Premièrement, il a envoyé des cadeaux. Donc, il s'est préparé de cette manière-là pour éviter la guerre. Deuxièmement, il s'est préparé à la guerre, parce que si jamais il faut faire la guerre, il se prépare à la guerre, c'est-à-dire, il a séparé son camp en deux camps, en se disant que si jamais ça va attaquer un des camps pourra suffisamment longtemps résister pour que l'autre puisse s'enfuir. Donc, on n'aurait pas tout perdu. C'est juste que c'est un peu compliqué parce que il n'a pas du tout partagé en deux parts égales. Il a mis tout ce qui était vraiment important dans un camp et le reste dans l'autre. Alors, bon, faut espérer que Essav ait la bonne idée d'attaquer le mauvais camp et que ce camp-là résiste suffisamment pour que l'autre puisse s'enfuir et se sauver. Mais bon. Bon, ça c'est un détail important probablement, mais sur lequel je sais rien dire de plus. Et donc il s'est préparé à la guerre aussi, et il s'est préparé parce que à la prière, il a prié parce que quel que soit le résultat de ce qu'il fait là, il faut l'aide du ciel. Sans l'aide du ciel, ça peut pas marcher. Donc s'est préparé aux trois choses. Alors, tel qu'on le décrit, tel que je vous l'ai décrit ici, c'est ou bien la paix avec si on l'obtient par les cadeaux, ou la guerre. Mais certains veulent dire que en fait, il s'est préparé aux deux choses en même temps. C'est-à-dire, pour lui, c'était absolument clair que c'est pas ou au sens, mais les deux choses sont, il faut à la fois, je fais des cadeaux, mais je suis pas prêt à tout. C'est-à-dire que nous, on peut se demander à quoi il n'est pas prêt, parce que les cadeaux qu'il donne sont tellement énormes qu'on peut se demander à quoi tu n'es pas prêt vraiment. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu fasses la guerre? En tout cas, il prépare aux deux, et pour les deux, il y a la prière. Et puis, ça se passe relativement bien. Beaucoup mieux que, donc, il n'y a pas eu besoin de faire la guerre. Il envoie les cadeaux, puis ensuite il présente sa famille. Et donc il envoie les servantes avec leurs enfants, puis ensuite Léa et ses enfants, et ensuite il a prévu d'envoyer Rachel et Yosef. Il faut juste que vous sachiez, si vous ne le savez pas encore, qu'à ce moment-là, Rachel est enceinte. Elle est enceinte de celui qui va devenir Binyamin. Alors, il envoie, ça se passe comme il a prévu, sauf que au moment où Rachel doit se présenter avec Yosef passe devant sa mère. Il cache sa mère. Chazal dit que, bonsoir, il cache sa mère et elle dit que Comme sa mère est très belle, il ne veut pas que Ésaü porte les yeux sur elle, de peur que finalement il essaie de la prendre. Bon, ça c'est ce qu'on dit, clairement. Mais en réalité, il s'agit de d'autre chose aussi. Comme vous savez, le Beth Amikdash, il a été construit essentiellement sur le territoire de Binyamin. Il y a juste une toute petite partie qui est sur une languette de la partie du terrain de Yehuda qui pénètre à l'intérieur du territoire de Binyamin. Et c'est sur Chazal disent que toute sa vie, Binyamin ou la tribu de Binyamin aurait voulu récupérer cette partie-là pour avoir tout le Beth Amikdash, tout le Mizbéach sur son territoire. Bon, il l'a jamais, il l'a pas eu. Mais donc ça veut dire le Beth Amikdash, le Mizbéach, est sur le territoire de Binyamin. Pourquoi c'est Binyamin? Pourquoi il est sur le territoire de Binyamin? C'est parce que, en fait, Binyamin est le seul qui ne s'est pas prosterné devant Ésaü. Tous les frères se sont prosternés, comme Yaakov, sont prosternés devant Ésaü. Et en fait, ce que Yosef a fait, c'est qu'il a caché sa mère pour que sa mère ne se prosterne pas devant Ésaü. Alors, si sa mère se prosterne pas, alors l'enfant qu'elle a dans son ventre, Benjamin, ne s'est pas prosterné non plus devant Ésaü. Il est le seul à ne pas s'être, le seul des enfants à ne pas s'être prosterné devant Ésaü. Se prosterner devant Ésaü, ça a quelque chose à voir. C'est pas de l'idolâtrie, mais on a parlé déjà dans un autre shiur. Du lien qu'il y a quand même d'une certaine manière entre l'idolâtrie et l'esclavage. Et alors bien sûr que devant un roi, on a le droit de se prosterner. Et bon, il y a un exemple célèbre où effectivement les Chachamim ont décidé de se prosterner. C'est Pourim. Tous les Chachamim se sont prosternés à Aman, parce qu'il était le roi, le vice-roi, en fait. Sauf Mordechai. Et donc tout le monde a dit, tous les Rabbanim ont dit à Mordechai, tu nous mets en danger, pourquoi tu ne te prosternes pas, c'est un roi, on a le droit de se prosterner. Et là-dessus, Mordechai a répondu, oui, mais moi je suis un descendant de Binyamin. Binyamin, il ne s'est pas prosterné. Il ne prosterne pas. Donc il y a quelque chose de particulier à ne pas se prosterner et qui est visiblement a permis à Binyamin d'avoir justement la grosse part de Mizbeach et donc du Beth Amikdash, quoi. Et donc on voit de nouveau que le problème du Beth Amikdash était là. La démarche de Yosef protéger sa mère, on a dit pourquoi, c'était, mais en vérité, derrière, on entend qu'il y avait un problème de Beth Amikdash aussi. Alors, ils ont fait, ça s'est bien passé, modulo, quelques petits accros. Le passage dit que quand Ésaü a rencontré, il a vu Yaakov, il l'a pris dans ses bras, ils se sont embrassés, etc. Toujours, hein, ils tombent dans le, ils disent toujours, ils parlent toujours du cou. Savarav, toujours le cou, c'est comme les Américains, et Chazal disent qu'en réalité, Ésaü, il a mordu Yaakov au cou. En vérité, il voulait tuer Yaakov. Mais pourquoi mais il voulait pas le tuer de n'importe quelle manière. Il voulait le tuer, justement, mordant au cou. Pourquoi le cou? Parce que tout a commencé par le discours de Yaakov qui a dit à Esav, vends-moi ton droit d'aînesse, etc. Donc, puisque ça a passé par là, pour pouvoir parler, il a parlé, c'est là qu'il c'est de, il va le tuer et boire son sang. Seulement, il y a eu un S et le coup de Yaakov est devenu comme du marbre, donc il s'est cassé les dents. Le coup dans Shir HaShirim, c'est aussi le Beth Amikdash. Donc, il s'agissait aussi de détruire le Beth Amikdash, d'empêcher de tuer Yaakov de cette manière-là, c'était aussi tuer le Beth Amikdash. Modulo, bon, avec, malgré tout ça, ils sont en paix, et quand ils vont se séparer, et alors Esav propose, il propose à Yaakov de l'accompagner. Voilà. Et si tu veux, je t'accompagne, on va faire un bout de chemin ensemble. Et Yaakov, évidemment, avait déjà prié Hachem quand il avait eu peur, qu'il craignait la guerre. Là, il y a un passouk qui dit que Yaakov, dans le passouk Yud-Bet, le passouk 12 du chapitre 22, 32, il a dit, Atzileni na miyad achi miyad Esav. Sauve-moi, demande Hachem, sauve-moi, s'il te plaît, de la main de mon frère, de la main d'Esav. Que ça veut dire, de la main d'Esav, de la main de mon frère? Il n'a qu'un seul frère, c'est Esav. Alors, vous connaissez bien probablement la dracha, hein? C'est sauve-moi de celui qui se présente comme mon frère. C'est-à-dire, il y a deux dangers pour le clan d'Israël dans les rapports avec les goïms. C'est qu'éventuellement ils essayent de nous tuer, ou bien ils essayent de nous assimiler, faire disparaître le clan d'Israël de cette manière-là. Et c'est ça. Miyad, sauve-moi de mon frère. Quand il se présente comme mon frère, quand il est de soi-disant, tu es le bienvenu, on va travailler ensemble, on va faire un chemin ensemble, etc. C'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux parce que c'est essayer de faire disparaître la différence, la Havdalah, tous les Motsé Shabbat, dans la Havdalah de la, dans la Havdalah qu'on met dans la, qu'on dit dans la Shmoné Esrei. On met très clairement en place, c'est, on veut faire une grande différence. On veut qu'il y ait une différence. L'assimilation, c'est, on va supprimer les différences. On va mettre en avant toutes les, tous les points communs. Façon générale, on doit toujours, si on est amené à comparer, en fait, la Torah et autre chose, faut mettre l'accent sur les différences, pas sur les similitudes. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, c'est super, la Torah, elle avait déjà dit la même chose que la psychanalyse, que la, que le marxisme, que le communisme, etc. C'est pas ça. Ça n'a aucune importance. C'est surtout, sûrement très mauvais. Ce qui est important, c'est montrer la différence, la havdala qu'il y a. L'assimilation, c'est justement supprimer les différences. Ce problème de supprimer les différences, c'est un problème qui est là en permanence, un danger permanent pour les Bnei Israël. Hazal disent que en Égypte, pendant le galout égyptien, Les Bnei Israël, ils ont cessé de faire la Mila. Or, la Mila, c'était la seule mitzvah qu'ils avaient, qui les distinguait des idolâtres, des Égyptiens. Et donc, ils ont cessé de faire la Mila. Et certains disent qu'avant de cesser de faire la Mila, quand ils faisaient la Mila, mais ensuite ils essayaient de tirer sur la membrane pour cacher le fait qu'il y a eu circoncision. Marqué dans le Midrash, Akadosh Baruch Hu a dit, vous voulez abolir la différence qu'il y a entre vous et les Égyptiens? Si vous, de votre côté, vous voulez pas marquer la différence, alors c'est eux qui vont marquer la différence. C'est marqué dans le Midrash qu'un Égyptien, quand il voyait un Ben Israël en Égypte, à ce moment-là, il vomissait. Il était dégoûté par les Hébreux de l'époque, les Ben Israël. Pourquoi ici? Hachem a fait en sorte qu'il soit dégoûté, pour qu'il y ait une différence. Si nous, on la met pas à notre manière, alors c'est eux qui vont la mettre. Ben, peut-être que c'est Hachem, il aurait peut-être pu faire en sorte que ça soit pas. Bon, peut-être que tu as raison. Dans la mesure où la terminologie, le verbe qui est utilisé pour parler de l'explosion démographique des Bnei Israël en Égypte, c'est le verbe qui est utilisé pour ils pullulaient. C'est difficile de lire ça, mais c'est la Torah elle-même qui dit les Bnei Israël qu'ils pullulaient. Le pullulaient, ça fait référence aux insectes. Ça veut dire, tous les films d'horreur, quand on veut faire peur aux gens, on présente des choses qui pullulent. Ça fait peur aux gens, paraît-il. Ça dégoûte, ça fait peur. Donc là, la différence est fondamentale. Donc il dit, préserve-moi, sauve-moi de mon frère, quand il se présente comme mon frère. Et aussi les sables, quand il est vraiment un sable, quand il est celui qui veut me tuer, quoi. Sauve-moi. Il avait demandé à ça, il demandait ça à Kadosh Baruch Hu avant, donc, quand il a partagé les deux camps en deux, le camp en deux. Voilà. Et ensuite, bon, alors, il y a tous les cadeaux, la présentation, etc. Et puis, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, à la veille de la guerre, il faut que je revienne un peu en arrière, à la veille de la guerre, Yaakov Balaïla, c'est le verset 23 du chapitre 32. À la veille de la guerre, Vayakom balaïlahu, Vaikach et chte nashav et chte shifrotav, Echadasar yiradav, Vayavor et maavar yabok. Il a passé la rivière, il est passé de l'autre côté de la rivière. Il a fait passer toute sa famille de l'autre côté de la rivière. Et donc il a toute la famille et tous les biens, tout le monde, tout était de l'autre côté de la rivière. Vayvater, Yaakov levado, il est resté seul. Et quand il était là, seul, va y avec Ish Imo ad alot ha-shachar. Et il y a un Ish, a priori c'est un homme, il y a un homme qui a lutté contre lui, enfin avec lui, jusqu'au lever du jour. Les Vayar ki lo yachollo, il a vu qu'il n'arrivait pas à battre Yaakov. Néanmoins, Vaïga Bechaf Yerecho, il l'a touché à la hanche, quelque chose comme ça, Veteka Kaf Yerech Yaakov Bechaf Koimo. Et donc, il lui a déplacé la hanche un peu. Et l'ange, enfin le Ish, pardon, j'ai vendu la mèche là. Mais bon, le Ish a dit, Shalcheni, renvoie-moi, qui alla à Shapar, parce que le matin est arrivé. Et Yaakov lui a dit, non, non, je te renverrai pas avant que tu m'aies béni. Alors, il a acquiescé, il lui a dit, quel est ton nom? Il a dit, je m'appelle Yaakov. Alors, en guise de bénédiction, en fait, si on peut parler comme ça, il lui a dit, j'ai un scoop pour toi. J'ai entendu, j'ai entendu là-haut que Hachem allait changer ton nom. Je t'avertis, c'est pas moi qui change ton nom, Hachem va changer ton nom un peu plus tard. Je t'avertis déjà que lo Yaakov yamer od shimcha, ton nom ce sera plus Yaakov, kim Israël, tu vas t'appeler Israël, qui sarita Elohim mimashim batuchal, parce que tu as lutté avec Elohim avec les hommes et tu as gagné. Ok, c'est ça la bénédiction qu'il lui a donné, quoi. La bénédiction, c'est un scoop. En fait. Alors Yaakov lui a dit, ok, alors non, dis-moi ton nom à toi. Rabbi Omer, il lui a dit, Lamazet Ishal Lishmi. Vaivarech Otosham. Et il lui a donné une bénédiction. Donc la bénédiction, ce n'était pas le scoop. Il a béni, on ne dit pas quels étaient les mots qu'il a donné, mais il lui a donné une bénédiction. Mais quand il lui a demandé comment t'appelles-tu, il lui a dit, mais pourquoi tu poses la question de mon nom? Je crois comme réponse. Rachid dit, il amène le Midrash, En la nushem kavua. Il a dit, nous n'avons pas de nom fixe. Alors, bon, peut-être il faut. La tradition, elle est que le Ish en question, ce qui s'est donné comme un homme, mais Ish, c'est toujours la virilité, disons, la force, la puissance. En tout cas, c'est l'ange tutélaire de Esav. Sa roche et les sables, le prince des sables. Tous les peuples ont un prince. Personnellement, pour moi, ces princes, ce qu'on appelle le prince, pour moi, c'est la culture de ce peuple. Le prince, en fait, c'est celui par lequel tout passe, le canal, en quelque sorte, quand Hachem donne à un peuple, il lui donne de telle sorte que ça soit audible, mangeable, etc., que ça passe par la culture de ce peuple. Donc les choses, chaque peuple reçoit d'Hachem, il reçoit en fonction de sa culture. Et c'est ça l'ensemble des valeurs, la culture, que l'ensemble des valeurs reconnues par ces peuples. C'est ça le sar. Et d'une certaine manière, nous, on n'a pas vraiment un tsar. Certains disent aussi que c'est un Elohim, c'est un dieu, quoi. C'est le tsar. Là, on dit traditionnellement que tous les peuples ont un dieu, sauf Israël qui n'a pas de dieu. Nous, on n'a pas de dieu, c'est-à-dire on n'a pas un dieu comparable à leur dieu. Nous, on est branchés directement sur Hachem. Et Dieu, c'est les intermédiaires. Eux, ils ont tous des intermédiaires qui sont justement... Ce qui permet de, on peut se représenter un peu schématiquement la chose, il y a un flux des bontés d'Hachem, et qu'ensuite se distribue dans tous les canaux qui représentent la culture de chaque peuple. Nous, on est branchés directement. Ça, c'est pas limité par un canal. Eux, ils peuvent recevoir que ce que le canal leur permet de recevoir. Il faut que ça soit acceptable pour eux. Il y a des choses. Par exemple, quand les peuples ont refusé la Torah au Sinaï, chacun a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Tu as dit, tu ne tueras pas. Moi, je ne peux pas. Pour moi, je vis de ça. Là, tu ne voleras pas. Mais nous, on vit de ça. Ils n'ont pas tous dit, c'est impossible. Chacun a dit, là, il y a chaque fois un point qui ne marche pas avec nous. Parce que c'est un point qui est dans notre culture. Et donc, on ne peut pas faire autrement que, on ne sait pas manger ça. Comme on dit en Belgique, on ne sait pas. C'est impossible de manger la chose comme ça.
Et par rapport au feu, on ne dit pas qu'il y a le feu de la chaîne qui vient directement sur le tamouillage et qui se redresse sur toutes les nations, pas sur ce trajet.
Ça, c'est aussi une façon de présenter les choses. Ça ne change rien. C'est-à-dire qui transite d'abord par Israël, le Beth Amikdash, par Israël, qu'ensuite il continue et il tombe dans chaque canal, pour la même histoire. Mais donc, ça veut dire que nous, on est en amont, en quelque sorte, de tous ces... Donc, celui qui a lutté contre Yaakov, c'est le prince, le dieu d'Esav. Alors, c'est Esav, c'est l'ennemi. Esav représente tous les peuples, n'est-ce pas? Il y a 70 peuples. Et il y en a en fait deux qui sont à la tête de ces 70, c'est Esav et Ishmaël. Mais le principal, c'est Esav. Bien qu'Ishmaël soit le beau-père de Esav, c'est néanmoins Esav qui est le principal. Donc Esav, d'une certaine manière, représente tous les peuples. Et donc c'est un problème dans la nuit, dans le Galout, tout le Galout, c'est une épreuve pour le clan d'Israël et la volonté de Sam, c'est d'éradiquer, de tuer Yaakov, d'être le seul héritier en quelque sorte. Alors il a essayé, il n'a pas réussi. Alors quand arrive le matin, son temps, c'est lui peut bénéficier seulement de l'obscurité. Dans l'obscurité, quand les choses sont pas claires, alors lui, ça peut marcher. Il peut attaquer. Il peut plus attaquer. C'est terminé. Quand c'est le matin, c'est terminé. Et à ce moment-là, il doit retourner auprès d'Hachem et donner son rapport. Bon, puisqu'il a une chlécoute, c'est un chalier qui doit ramener son rapport. Et c'est fini. Et c'est pour ça qu'il lui dit, c'est le matin, maintenant laisse-moi partir. Il n'y a plus. Et Yaakov ne l'a pas laissé vraiment partir. Et donc il a indûment prolongé la lutte, en fait, avec lui. Et c'est dans ce laps de temps-là qu'il a pu le toucher et le déséquilibrer, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait la partie basse, la partie qui soutient le corps humain, en quelque sorte, partie, n'est pas vraiment en ligne. D'accord, il a un peu déboîté. Ça veut dire que la Torah, il doit avoir normalement un soutien, elle n'aura jamais le soutien matériel complet qu'elle devrait avoir. Bon, c'est ça que Esav a réussi à faire. Il a empêché Yaakov d'avoir le soutien. C'est pour ça que toutes les institutions, comme dit le Rav Etzraïm, toutes les institutions juives, elles ont toujours des problèmes matériels, au point que si jamais il y a une yeshiva qui n'a pas de problème matériel, il faut aller regarder exactement si c'est une vraie yeshiva. Il y a une explication de Rav Leib Rassman, qui était le mashgiach de Yeshiva Hebron en Pologne, en Lituanie. Quand Yaakov lui a demandé son nom, il a dit « Lamazé Tishalishmi ». Rav Leib, il disait que il lui a répondu, c'est la réponse. Son nom, c'est « Lamazé Tishalishmi ». Le nom de quelque chose dans la Torah, C'est l'essence, ça reflète l'essence de la chose, l'intériorité de la chose. Donc l'intériorité des saves, c'est l'amazé tishalishmi. Alors il a donné un machal, raconté, c'est un paysan qui va à la ville pour la première fois de sa vie. Et il a une grande torche électrique, disons, il n'a rien à plus d'achat. Et on lui dit, tu sais, si tu achètes ce billet-là, alors tu peux entrer dans cette pièce-là et tu vas voir des choses extraordinaires, tu vas voir des animaux qui viennent dans ta direction, etc. Bon, il y va. Et là, il est dans la salle, dans l'obscurité. D'un coup, le film commence. Tout d'un coup, il y a effectivement il a l'impression qu'il y a des trucs qui vont lui sauter à la figure. Mais d'où ils viennent, ces trucs-là? Alors, il allume sa torche. Et alors, toute la salle dit, Tanier, on n'y voit rien, on voit plus rien, tu sais, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que cette image-là, on la voit que dans l'obscurité. Si tu mets de la lumière, à ce moment-là, quand tu t'envoyais de la lumière à cet endroit-là, on ne voyait plus rien, quoi. Il a dit que c'est ça le nom de son nom, c'est ne pose pas la question. Enfin, mon nom, c'est personne pose la question. Et parce que les gens ne posent pas la question, la mazet ils ne posent pas la question. Alors, les gens ne se rendent pas compte, ils sont dans l'obscurité, que s'ils posaient la question, c'est que moi je vends, c'est des illusions. Et la réalité, on ne la voit même pas parce que c'est l'obscurité. De l'obscurité. Si les gens éclairaient, en quelque sorte, s'ils posaient la question, c'est fini, l'illusion, elle finirait et on verrait la réalité. Donc c'est vraiment son nom. Mon nom. C'est ça, c'est l'Yetzirah, et ça, c'est l'Yetzirah extérieur, évidemment. Bon, ceci étant, donc, Essav va suggérer à Yaakov de faire un bout de chemin ensemble. Alors, Yaakov, il veut évidemment pas. Et il trouve des prétextes. Non, nous, on va plus lentement, ça va, etc. Il se donne rendez-vous à Shrem. On se retrouvera à Shrem. Il n'est jamais allé là-bas au rendez-vous. Mais il est allé à Shrem, il est arrivé à Shrem, et il a campé, et il n'est pas entré dans la ville de Shrem. Il a campé en dehors, et il a fait un hérou, quoi. En fait, il a mis des barrières autour de son camp, complètement. Il n'y a que des barrières. Pour vraiment marquer la différence. Alors on dit qu'il leur a apporté des choses, etc. La ville, mais moi je vous apporte, mais je veux pas votre influence. Et puis il se passe ici la grande tragédie, là. C'est que on nous dit que Dina est sortie pour voir les filles. La tetsé Dina, bat Léa, la chère Yalda, le Yaakov, l'Irod, Bifnota, Aretz. Elle est sortie voir les filles. C'est le début du chapitre 34. C'est quoi cette histoire? C'est que Shrem, en fait, il voulait piéger Yaakov. C'est-à-dire qu'il voulait introduire de la. Les goyim, ils veulent toujours introduire de la Touma dans le peuple d'Israël. Et donc, sa façon leur façon d'essayer d'introduire de la Touma dans le peuple d'Israël, c'est de violer les femmes, en fait. On viole les femmes, ça se fait, malheureusement, ça se fait dans le monde entier, dans la guerre, etc. Il s'agit pour toujours pour les dominants à ce moment, enfin, d'un moment en tout cas, ils veulent asseoir leur domination en violant les femmes. Et alors, ce qu'il a fait, Shrem, il a organisé une fête. Une fête uniquement pour les filles. Des filles de l'âge de Dinah, des petites filles. Alors, avec de la musique, ça dansait, ça chantait, c'est la fête. Et ils ont fait la fête juste de l'autre côté du camp des barrières du camp de Yaakov. Et Dinah est allée regarder, il n'y avait que des filles, et allez, quel mal il peut y avoir. Elle est allée regarder les filles. Mais le piège, c'était qu'à ce moment-là, Shrem lui-même allait venir, et il l'a prise, il l'a raptée, il l'a violée. Après, il a essayé de lui parler, il lui a fait miroiter qu'elle allait devenir une princesse, etc. Quelque part, il lui racontait ce qu'il pouvait pour la séduire, mais en fait, lui-même, il est tombé plus ou moins amoureux d'elle. Il a dit à son père, écoute, je veux cette fille. Va demander à son père, au père de la fille, qu'il me la donne en mariage. Mais en attendant, elle était chez lui, il l'avait séquestrée chez lui. Et donc, il a donc appris que on avait violé Dinah. Il n'a rien fait au départ. Pour réagir, il attendait le retour de ses fils, qui étaient en train de paître les troupeaux. Quand ils sont revenus, ils ont compris qu'ils avaient entendu la discussion de mariage, etc. Alors, bon, ils étaient furax, mais ils ont échafaudé un plan, une ruse, en fait. Et ils ont dit, OK, on est d'accord. Mais nous, pour nous, c'est insupportable de donner notre sœur, notre fille à des gens qui ne sont pas circoncis. Si vous vous circoncisez, c'est une histoire qui marche, qui peut marcher. Et alors, il a même dit à son père, écoute, quel que soit le prix qu'ils vont demander pour, je paye le prix, n'importe quel prix, je veux cette fille. Je la veux en mariage, je veux dire, je veux l'épouser. Et donc, il est allé discuter avec les gens de la ville, il a convaincu les gens de la ville en leur disant que, en vérité, tout ça, c'est un truc, que nous, avec ça, on va leur perdre, on va se marier, etc. Mais on va les phagocyter complètement, on va tout leur bien, tout ça, tout ça, ça va tomber dans notre escarcelle. Il faut juste qu'on fasse la mila. Donc les gens, séduits par la perspective de s'en mettre plein les poches, ils ont été d'accord de faire la Mila. Et au troisième jour de la Mila, Shimon et Lévi sont venus et ils ont massacré tout le monde. Alors, comme on avait déjà dit, Yaakov n'était pas spécialement heureux, mais pas tellement. Pas clair, ça a l'air que son problème, enfin, ce qu'il dit, c'est, comme je vous ai dit déjà, et on va se faire massacrer par tout le monde. Là. Ils vont tous les alliés de Shrem vont nous massacrer. Mais ça s'est pas fait. Dans le texte, on voit que ils ont, comme je vous ai dit, ils ont été paralysés. Ils n'ont pas réagi. Et ça s'est fait comme ça. Shimon et Lévi ont donc massacré tout le monde. Ils ont récupéré Dinah. Alors, Dinah, Le statut d'une fille qui a été violée, c'est pas un statut enviable dans ce monde-là, dans aucun monde d'ailleurs. Et pensais que personne ne, elle voulait pas revenir parce que mais personne ne va m'épouser. Alors, Shimon, son frère, lui a promis qu'il allait l'épouser. C'est un inceste, mais Shimon l'a épousé. Elle l'a épousé, mais elle était enceinte de Shrem. Ils ont eu une fille. La fille, elle s'appelle, pour les Ashkenazim, elle s'appelle Osnat, pour les Sfaradim, elle s'appelle Asnat. Donc, cette Osnat, Yaakov Avinu ne voulait pas qu'elle reste parce qu'elle était un rappel permanent de ce qui s'était passé. Donc, il l'a renvoyée, il l'a envoyée en Égypte, c'est assez difficile à comprendre exactement ce qui se passe, mais il lui a donné une amulette pour la protéger. Et elle est allée en Égypte, je ne sais pas comment. Elle est arrivée là-bas, elle a été adoptée par Madame Potiphar. Et donc, elle se retrouve dans la même famille dans laquelle Yosef était esclave, à un moment donné. Bon, à ce moment-là, Yosef, il est probablement déjà vice-roi ou pas loin. Mais en fait, il va se faire un chidouch contre Yosef et cette personne-là. Donc, je ne sais pas s'il savait d'emblée qui elle était. C'est un peu compliqué d'imaginer qu'il a épousé quelqu'un qui ne savait pas qui elle était. Et donc, il a épousé Osnat. Et ils ont eu deux fils, tout le monde connaît, qui s'appelaient Ephraïm et Menaché. Et ces deux fils-là, ils ont un destin, un statut complètement différent des autres. D'abord parce que Yaakov, quand il les a bénis, comme vous savez, bon, on verra ça plus tard, mais on peut le savoir déjà maintenant, que quand Yaakov les a bénis, c'est la fameuse histoire où il a croisé les bras, c'est-à-dire que il a décidé de mettre sa main droite sur le plus jeune. Donc, il bénit d'abord, d'une certaine manière, le plus jeune, avant le plus âgé. Le plus jeune, c'était Ephraïm. Et il dit, je sais très bien, ils auront tous les deux un grand destin, mais l'un sera plus grand, le plus petit sera plus grand que le plus grand, en fait. Et ce qui leur est arrivé, c'est que, comme vous savez, Yaakov a fait un coup de force, c'est-à-dire Yaakov lui-même, il a dit à Yosef, je te prends tes fils. Voilà, c'est tes fils, c'est les miens, ils sont à moi. Et je vais les traiter comme mes propres fils. C'est-à-dire, il a pris ses petits-enfants et il leur a donné un statut d'enfant. Il les a mis à la même hauteur que leurs oncles, en fait. Et donc, quand ensuite on va parler de 12 tribus, alors on n'y aura pas de tribu de Yosef, mais il y aura une tribu de Menaché et une tribu d'Éphraïm. Donc, eux vont être mis sur le même plan que leurs oncles. C'est presque incompréhensible. Mais ça, c'est un coup d'Yaakov. C'est comme ça. Et alors, ils ont un point tout à fait particulier, c'est que de tous les enfants de Yaakov, ces deux-là sont les seuls qui ont dans leur ascendance, ils ont Rachel et Léa. Puisque Osnat, c'est la fille de Dina, Dina, c'est la fille de Léa. Et Yosef, c'est le fils de Rachel. Donc, les autres, ils sont ou bien du côté Rachel ou du côté Léa. Eux, ils ont les deux. Donc, les vrais enfants, si on peut parler comme ça de Yaakov et Rachel et Léa, c'est Ephraïm et Menaché. C'est tout à fait spécial. Donc, on leur donne un statut à part. Donc ça c'est le donc là c'est l'histoire de Dina. Alors on voit que Yaakov là il en prend plein la figure. On peut, si on regarde, on s'aperçoit que depuis le moment où il doit partir de chez lui parce que ça veut le tuer, alors il est dépouillé par Eliphaz, il est roulé par Lavan, il arrive qu'ensuite, des tuiles, bon, il est menacé par Essav, il lui arrive l'histoire de Dina, c'est beaucoup pour un seul homme, quoi. Ça a l'air d'être une espèce de sanction. Mais une sanction pourquoi? Il y a, je vous ai dit au tout début, on a parlé de la fameuse de la Midat Hadin, qui laisse rien passer. Lorsque Esav est arrivé chez Yitzhak pour recevoir la bracha, après avoir ramené le gibier qu'il lui a préparé, etc., et que Yitzhak lui a dit, ben, j'ai déjà donné la bracha. Donc là, Esav a poussé un cri de douleur énorme. Remarquez que l'expression qui est utilisée là-bas pour décrire ce cri, elle existe qu'une seule fois dans tout le Tanakh, une autre fois dans tout le Tanakh. Celui qui a poussé le même cri de douleur, c'est Mordechai. Quand Mordechai a entendu le décret de Haman, une solution finale quoi, pour tous les Juifs, en fait, il a poussé un cri. Et on dit que ce cri-là, il a poussé. C'est un cri que les Bnei Israël ont dû produire, si on peut parler comme ça, parce qu'ils ont fait crier, parce que Yaakov a fait en sorte que Esav pousse ce cri-là. C'est en réponse, en réparation, en quelque sorte, du cri d'Esav que Mordechai pousse le même cri. Ça veut donc dire que, quelles que soient les excellentes raisons que Yaakov avait de se déguiser sur l'ordre de sa mère, etc., sa mère qui agissait par nevoie, ce que vous voulez, mais ça a fait souffrir Esav. Et même Esav, on n'a pas le droit de le faire souffrir. Peut-être Yaakov aurait peut-être pas dû accepter ce que sa mère lui disait, il aurait peut-être dû trouver une autre solution. Peut-être, je ne sais pas, il aurait, si Rivka n'avait pas le droit de dire à Yitzhak ce qu'elle savait, mais lui, il n'avait pas reçu la prophétie, il avait peut-être le droit de le dire. Enfin, j'en sais rien, je ne vais pas refaire l'histoire. En tout cas, visiblement, il est puni. Et donc, il a une suite de tsarot qui lui tombe dessus toute sa vie, quoi, finalement. Parce qu'après, il va encore y avoir l'histoire de Yosef. Il va être trompé par ses propres enfants. Les enfants vont lui raconter des salades. Non seulement les enfants ont vendu leur frère, ils l'ont vendu comme esclave. Ça veut dire, a priori, il ne fait plus jamais surface, quoi. C'est jamais qu'une peine de mort commuée en esclavage. L'esclavage, c'est une forme faible de mort, quoi. Donc tout ça, ça lui tombe dessus à Yaakov, parce qu'il a fait souffrir, ultimement. Il a fait souffrir Esav. Alors, bon. Maintenant, il va, en fait, il va perdre Rachel. Chemin. Si. Rachel va mourir, donc en couche, en donnant naissance à Binyamin. Il va même pas, il va l'enterrer sur place. Il va même pas l'enterrer à Bethléem. Il n'avait même pas entré dans la terre, en terre d'Israël. Et à ce moment-là, il apprend encore que la Ménéchette, la nourrice de Rivka, celle qui avait accompagné Rivka quand elle est partie de chez Laban, elle meurt à ce moment-là. Et Yaakov va nommer l'endroit où elle est enterrée, Alon Bachout. Et Bachout, ça peut s'entendre comme un pluriel, parce qu'en réalité, on dit dans le texte que c'est la mort de Dvorah, ce qui est vrai, mais c'est aussi la mort de Rivka. Rivka meurt à ce moment-là, c'est sa mère. D'accord? Elle meurt à ce moment-là, et lui, il n'est pas là. Et Esav, il la déteste, il ne sera pas là. Et Yaakov, il est chez lui, là. Pardon, Yitzhak, pardon. Yitzhak est chez lui. Donc, elle est enterrée quasiment en catimini. On donne toutes sortes de raisons. D'abord, parce qu'on ne voulait pas qu'Esav soit là. Parce que si les gens voyaient Esav, qui considérait comme un mauvais sujet, ils vont dire du mal de Rivka qui a donné naissance à cet Esav. Donc, sa mère aussi, elle est enterrée en dehors de lui, donc il perd sa mère sans pouvoir rien faire, quoi, sans pouvoir l'enterrer. Ça lui tombe dessus aussi. Bon. Et puis ensuite, puisque Rachel meurt, alors il y a l'épisode de Rouven. Rachel meurt. Rachel était donc la préférée de Yaakov. Yaakov, quand il s'est marié avec Rachel, il a installé son quartier général chez Rachel. Alors, bien entendu, il devait aussi aller avec Léa. Il est allé avec Léa, bien sûr. Mais son quartier général, c'était chez Rachel. Quand Rachel meurt, probablement que tout le monde a pensé que bon, maintenant il va s'installer chez Léa. Or, il ne s'installe pas chez Léa. Il s'installe chez la servante de Rachel. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il manifeste encore fortement que bon, il préfère la servante de Rachel à Léa. Alors, il y en a un qui supporte pas la chose. C'est le fils aîné de Léa. Rouven, il supporte pas le truc. Et il va essayer de faire en sorte que son père ne puisse pas continuer de la sorte. Alors, dans le texte, il est dit que le texte dit simplement qu'il a couché avec Bilha. Si lui, il a un rapport avec Bilha, son père ne peut plus avoir de rapport avec Bilha. Parce qu'un père et un fils ne peuvent pas épouser, il ne peut pas avoir de rapport avec lui. Donc, en réalité, lui, il n'avait pas le droit parce son père avait déjà eu des rapports avec Bilha. Mais maintenant, son père non plus, il ne peut plus. Alors, dans les Mefarshim, on dit que c'est pas que Rouven a vraiment couché avec Bilha, mais que il a pris le, disons, non, il a pris le lit de Yaakov qui était chez Bilha et il l'a sorti de là-bas. Apparemment, il l'a amené chez Léa, je sais pas. Et donc, c'est-à-dire, il s'est mêlé de la vie conjugale, de l'intimité de son père. Alors, la Midatadine ici, qui ne passe pas grand-chose, La Torah, il appelle ça, au niveau où était Reuven, c'est considéré comme un adultère. Mais c'est difficile d'imaginer qu'il l'a fait parce que, comme je vous ai dit, il n'avait pas le droit d'avoir, même toujours d'égal par ailleurs, il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec Bila. Bila, c'est la femme de son père, c'est dans, c'est une erva. Et à ce moment-là, bon, il arrive donc, Yaakov est chez Yitzhak. Yitzhak finit par décéder aussi. Il a vécu 180 ans. Et Esav et Yaakov l'ont enterré. Alors, c'est intéressant parce que c'est écrit que Vaïkberu oto Esav veYaakov. L'ordre ici est important parce que lorsqu'ils ont enterré Abraham, c'est marqué que Vaïkberu oto Yitzhak veYishmaël. Et on dit que la preuve que Ishmaël a fait tchouva, c'est qu'il a laissé la première place à Yitzhak à l'enterrement d'Abraham, alors que c'est lui qui était le fils aîné. Et donc, si on est médaillé ici l'ordre, si on fait attention à l'ordre là-bas chez Ishmaël et Yitzhak, alors on devrait faire attention aussi à l'ordre ici. Donc, ici, ça veut dire que Yaakov a laissé à Esav le rôle d'aîné, alors que, premièrement, il le lui avait acheté, droit d'aînesse. Donc, a priori, au titre du droit d'aînesse, il aurait aussi pu être ici le premier, mais non, il l'a laissé faire. Mais est-ce que ça va dans la suite de tous les Adonis qu'il a donné à Esav? En tout cas, il le laisse. Esav. D'accord. Et donc, Esav, lui, à l'enterrement de son père, il est là, quoi. Même si, effectivement, son père, il l'aimait, ou je ne sais pas comment ce qu'il faut dire ça, il le respectait, même s'il le trompait éventuellement, mais il le respectait, il n'ose pas faire des choses devant son père. Bon, il pose toujours des relativement bonnes questions, etc. Yitzhak fait comme si il ne voyait pas clairement en lui, mais lui, il pense qu'il a réussi à tromper son père. Il a aussi du respect pour son père. Par exemple, quand il s'aperçoit que Jacob lui a pris les bras propres, il dit vivement que mon père meure. À ce moment-là, je pourrais tuer mon frère. Il va pas tuer son frère du vivant de son père. Ça ferait trop de chagrin à son père. Ça, il va pas le faire. Mais il veut le tuer. Il envoie bien Eliphaz le tuer. Donc, c'est pas qu'il lui a pardonné quoi que ce soit. Il ne le tue pas parce qu'il ne veut pas le tuer du vivant de son père. Mais maintenant, ils ont fait la paix, de sorte, semble-t-il. Avec la résultante que c'est lui qui est en position de domination, quoi. Accepté par Yaakov. Voilà. Petites choses sur ce parachat de l'éclat est énorme.